France Musique.
Merci beaucoup Vincent Théval. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau label pop.
1, 2, 3. Pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui bouscule les tympans. Troisième épisode autour du temps. Après les drones et les impacts, aujourd'hui une émission qui questionnera notre perception du temps musical, en particulier en compagnie de Jean-Claire Vanson, musicologue et pédagogue de haut vol. Ensemble, nous évoquerons cette recherche continue des compositeurs à jouer avec le temps, à nous faire oublier le temps qui passe ou à créer de continuels présents. Nous nous interrogerons sur ce qui a changé dans notre perception du temps musical grâce aux révolutions sonores du XXe siècle. Et comme chaque dimanche, un zoom sur une œuvre plus ou moins récente et un son violemment diffracté. Le Cri du Patchwork, thème numéro 17, épisode numéro 3, séquence numéro 1.
Hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine. L'agogique. Terme utilisé pour la première fois par le musicologue Hugo Riemann à la fin du 19e siècle pour identifier toutes ces variations de tempo qui caractérisent une interprétation. L'agogique, c'est ce qui fait que le temps musical n'est pas métronomique. Comme le dit l'ethnomusicologue Jacques Bouette, les variations agogiques sont le seul et unique biais par lequel le temps musical ne se confond pas avec le temps chronométrique découpé en intervalles. Et le terme est bien choisi. Agogique vient de agogé, qui en grec veut dire conduite ou mouvement musical. Et le temps, c'est du mouvement. Prenez ce prélude, non mesuré, de Louis Couperin, à la fin du XVIIe siècle. La notation musicale ne fait apparaître aucune valeur rythmique, laissant alors l'interprète face à ses propres choix. En écoutant la version de Skip Sampé, on entend l'importance de la conduite des phrases, de ces variations agogiques, qui permettent de donner un style musical, une signature de l'interprète. Comme il n'y a aucune indication d'interprétation, un tout autre musicien jouera différemment avec le temps de ces préludes non mesurés, comme si on laissait de la place à un temps élastique, qui puisse être géré par l'interprète et non par un mouvement métronomique. Lorsque Earl Brown écrit Music for Cello and Piano en 1955, il crée toute une partition qui change le rapport des interprètes au temps. Chaque note est suivie d'un trait, indiquant sa durée relativement aux autres. Entre le violoncelle et le piano, se dessine alors une musique flottante, mouvante, bien loin d'une pulsation ou tout autre concept maîtré du temps. La notation musicale peut permettre d'insuffler à l'interprète cette volonté d'y ajouter des variations agogiques plus ou moins libres, même lorsqu'elle est extrêmement précise. Si l'on remonte au XVe siècle, la précision rythmique des partitions de Lars Subtilior donne fréquemment un résultat proche de l'irrationnel, que l'on penserait totalement improvisé ou libre. Les rapports de proportion métrique entre les voix d'un contrepoint sont si complexes que le résultat paraît impalpable. Comme dans cette version à deux voix de la chanson « De tout bien pleine » du compositeur Hein von Riesserem, transformée en étude temporelle par le théoricien Johannes Tinctoris. Une ligne rythmique complexe interprétée ici avec une grande liberté de respiration et de suspens par Christophe Deligne à l'organetto et Anna Danilevskaya à la vielle. Lorsque Conlon and Caro expérimentaient des temps musicaux inédits sur ces pianos mécaniques, ils n'avaient pas imaginé que certains interprètes se risqueraient à les jouer sans la mécanique. Comme le pianiste Imri Talgam, que l'on entend ici jouer l'étude numéro 6, où l'on sent les deux temps ductiles des deux mains comme si elles évoluaient dans deux dimensions différentes. Ici, les temps complexes mais mécaniques redeviennent humains, avec toutes les variations agogiques que cela peut engendrer. Sans doute inspiré par le travail de Nan Caro, Marc Monet, dans son double concerto pour piano intitulé « Bosse, crâne rasé, nez crochu », élabore tout un mouvement, les acrobates, où les pianos semblent évoluer chacun dans des temps élastiques et libres, alors que tout est extrêmement noté, comme quoi on peut l'écrire « lagogique ». Agogiques permettent de créer une musique faite de lignes à la fois cassées et fluides. Ce serait un peu une manière de caractériser le débit vocal de certains chanteurs qui ont l'art de flotter toujours au-dessus du cadre rythmique. Deux exemples exceptionnels de flow, comme disent les MC du rap. Georges Brassens et son art d'être toujours à côté du temps, et Quasimoto, ou la virtuosité d'un rap moelleux.
Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Hey yo, we head to a party, then go see what's happening. Smoking the law, in the car, turn on some rapping. Start the freestyle, we be up on our way. Finish up the blunt.
Somebody pass me that spray.
Get on the freeway, yo, it's after dark. I guess it always pulls up right behind us.
Can some narcs.
Letting all kinds of speeding cars pass. Just so we can harass our black ass. Police pulling us over for no reason. Searching the car like it's nigga hunting season. Year round, asking about where's the pound. Where's the guns? Are y'all niggas on the run? You got warrants? Y'all niggas ready for some storming? That's how they be cracking. It seems like they be acting. Except it's real life, like they rushing up your residence. Searching the crib, they can't find no evidence. Man, this stuff is making me mad, man.
En écoutant Quasimoto dans Low Class Conspiracy, on se rend compte de l'importance de l'inégalisation des valeurs rythmiques dans le débit du rap. Quasimoto est un des pseudos du producteur Madlib. Pour arriver à créer cette voix haut perché et ce temps fluctuant sans cesse, Madlib a enregistré son flow sur une instru au ralenti, avant de tout accélérer pour arriver à ce résultat. Est-ce la technique en elle-même qui a permis de créer un temps si malléable, flottant ? On a l'impression que la voix de Quasimoto est détachée du beat, libre d'accélérer ou de ralentir. Une conduite inégale de la ligne musicale qui me fait penser à l'art des luthistes du XVIe siècle. En tout cas, comme l'interprètent les musiciens actuels. Attention, musique à sensation temporelle de haut vol. Dans ce Richard Carr de Francesco da Milano interprété par Jan van Outrave, tout est fait d'accélérando, de décélérando, de ralenti. Ou bien pas du tout. Il n'y a d'accélération que s'il y a un tempo, une pulsation définie. Ici, on a l'impression que l'interprète ne fait que suivre la conduite de chaque ligne, au gré des variations agogiques que ses doigts lui dictent. Certains appelleraient cela du rubato, l'autre manière de nommer l'agogique. Étymologiquement, rubato veut dire voler, un temps qui se dérobe, qui glisse, nous faisant perdre la sensation de pulsation. Il y a aujourd'hui des traditions d'interprétation du rubato, des écoles du rubato dans le répertoire du XIXe siècle. Évidemment, dans la musique de Frédéric Chopin, apôtre du rubato. Mais je vous propose plutôt d'entendre Edvard Grieg jouant lui-même ses papillons pour piano. Enfin, lui-même, écoutons plutôt un rouleau de piano mécanique qui témoigne de sa propre interprétation réalisée en 1906, ici enregistrée sur un piano moderne. Ou comment Edvard Grieg entendait l'agogique de sa musique.
Thank you.
le rubato ou l'anti-musique pulsée. D'ailleurs, les artistes travaillant dans les musiques électroniques pulsées sont souvent confrontés à la logique métronomique et mécanique de l'ordinateur. On voit fleurir depuis quelques années des styles électro qui tentent de jouer sur le retard, le suspens, un temps chewing-gum. Finalement, un temps strictement mécanique redevenu musical, tel que le modèle le DJ britannique Moody Good, alias Eddie Jefferies. On imagine alors celui qui tente de danser désespérément sur ce morceau. This is The Investigation.
Vous voyez qu'on y arrive, hein ? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
Jean-Claire Vanson, bonjour.
Bonjour Clément.
Vous êtes musicologue, pédagogue, conseiller artistique à l'AREM Île-de-France et vous avez écrit un article il y a quelques années maintenant autour de ce temps, le temps que des compositeurs comme Karlheinz Stockhausen ou d'autres de sa génération ont commencé à malmener, un temps musical qu'ils ont tenté d'annihiler finalement. Et je vous ai invité pour parler ensemble de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans ces musiques dites contemporaines, les musiques de création, on tente désespérément de troubler notre perception du temps. La musique c'est un art du temps, on le dit souvent, est-ce que c'est un bon résumé de ce que ça pourrait être la musique ?
Oui, complètement. Après il convient peut-être de préciser ce qu'on peut désigner par là, la musique est un art du temps. La musique se déploie dans le temps, incontestablement. Plus intéressant est la proposition inverse. Le temps se déploie dans la musique. Oui. On connaît la phrase célèbre de Saint-Augustin, « Qu'est-ce que le présent ?» Quand on me le demande pas, je sais ce que c'est, mais sitôt qu'on me le demande, je ne sais plus ce que c'est. Oui. Le temps est une réalité contingente, dont nous faisons l'expérience au quotidien, mais qui est difficilement mesurable. Et il nous faut des phénomènes extérieurs pour nous rendre le temps préhensible. Une horloge, par exemple, matérialise l'écoulement du temps. Et la musique, en tant que phénomène temporel se déroulant dans le temps, fait partie de ces phénomènes qui nous permettent d'appréhender l'écoulement du temps, de nous le rendre tangible.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut le sentir, ce temps qui passe, quand on écoute la musique ? Est-ce que la musique est là pour nous faire sentir ce temps qui passe ?
Je ne sais pas si la musique est là pour nous faire sentir ce temps qui passe. Toujours est-il que notre écoute est fortement configurée par la manière qu'a la musique de s'écouler dans le temps.
Et c'est toute la question à partir des années 50, finalement, de comment la musique va s'écouler dans le temps. D'ailleurs, c'est le titre d'un article de Karlheinz Stockhausen, « Wie die Zeit vergeht », c'est-à-dire comment le temps passe.
Oui, exactement. Nous avons une écoute absolument incroyable, magique. De même que notre perception visuelle, notre perception auditive ne se résume pas à la perception d'événements isolés. Ce phénomène a été mis en évidence par les psychologues de la Gestalt, les théoriciens de la Gestalt, de la forme, qui ont travaillé sur la perception visuelle et assez étonnamment, le premier théoricien de la Gestalt, Ehrenfels, s'est laissé inspirer par un exemple musical. Mmh. À la toute fin du 19e siècle, il constatait, une chose dont nous pouvons tous faire l'expérience, c'est que si nous jouons Frère Jacques en Do majeur et puis en Sol majeur, nous reconnaîtrons la même mélodie. Et pourtant, il n'y a aucune note qui sera identique, puisque la mélodie sera transposée. Ce qui prouve bien que ce qui compte dans notre perception de la musique, ce sont des formes, des touts, et non pas des éléments individués. De fait, notre écoute musicale procède à trois grands types de démarches relativement au temps. Le premier phénomène, c'est celui de la synthèse, c'est-à-dire que nous n'écoutons pas des phénomènes isolés, mais notre oreille tend à les regrouper. Ce qu'on peut appeler un phénomène de synthèse temporelle. C'est ce qui fait que le temps qui tracassait tant Augustin est en fait un présent qui dure. Le présent est ponctuel, certes, mais la musique permet de faire durer ce présent, de constituer des unités qui se présentent avec un début, un milieu, une fin, et que notre oreille constitue en tant qu'unité. Nous allons écouter tout à l'heure deux extraits. Le premier, un extrait de Stockhausen, Punkte. L'autre, le début du quatuor avec piano numéro 1 en sol mineur de Mozart. Et on va se rendre compte que, dans le premier cas, notre oreille peine à constituer ces unités. Elle perçoit des points, comme l'indique d'ailleurs le titre de l'œuvre,
Punkte,
une musique pointilliste avec des points isolés que notre oreille ne parvient pas à mettre en relation les uns avec les autres. Il n'y a aucune syntaxe qui semble les relier. À l'inverse, dans le début du quatuor de Mozart, nous allons assez clairement entendre des motifs qui constituent eux-mêmes des thèmes, qui constituent des phrases. Nous constituons des unités.
C'est-à-dire que notre oreille va synthétiser tout ça parce qu'elle va reconnaître des objets.
Parce qu'elle arrive à inscrire les différents événements dans un flux et regrouper ce flux dans une forme.
Deux courts extraits du début de Punkte de Stockhausen, de Karl-Heinz Stockhausen, ainsi que du quatuor avec piano numéro 1. C'était le début du premier mouvement de Wolfgang Amadeus Mozart. C'est vrai que là, Jean-Claire Vanson, quand on écoute ces deux pièces, la première nous donne énormément d'informations qui nous fait perdre un peu ça. On ne sait pas à quoi se raccrocher, alors que Mozart nous donne tout de suite le sujet sur lequel on va se raccrocher pendant tout le reste du mouvement. Il y a un jeu avec notre attente, finalement.
Tout à fait. Alors, quand je parlais de synthèse, au fond, notre oreille procède à cette synthèse rétroactivement. C'est-à-dire que c'est une fois qu'elle a entendu deux événements que rétroactivement, elle se dit « Ah, il y avait là le début de quelque chose » ou « Il y avait là la fin de quelque chose ». Par ailleurs, notre oreille se projette aussi vers l'avenir. On peut construire certaines attentes, certaines présomptions. Savez-vous, Clément, une fois qu'on a proposé une idée musicale, combien de solutions se présentent à un compositeur ?
Je sais pas, des milliers ?
3.
Et pourquoi ?
Une fois qu'on a donné un élément A, il y a 3 possibilités. Soit on le redonne à l'identique.
Répétition.
Donc répétition, soit on le redonne à l'identique ou de manière variée. Soit on présente autre chose, un élément B. Soit on s'arrête.
D'accord, ça peut être aussi un choix, de s'arrêter.
Voilà. Dans ces 3 choix, notre oreille se détermine. Elle s'est dit, tiens, on attend plutôt le redit de A, on attend plutôt autre chose, ou on n'attend rien. Cette présomption, c'est précisément ce que Stockhausen déjoue. Car il propose un discours excessivement imprévisible, et cette imprévisibilité s'enracine même dans la possibilité d'une synthèse temporelle. On ne parvient pas à constituer d'objets, donc on ne parvient pas à constituer de direction, donc on ne parvient pas à prévoir là où le discours musical nous emmène.
Mais est-ce que ce n'était pas justement une volonté de cette avant-garde des années 50-60 de faire perdre l'auditeur dans ce cadre temporel qui est complètement explosé ? Alors que Mozart, justement, cette prévisibilité, même s'il joue avec ça, c'est-à-dire il joue avec notre envie de savoir ce qui va arriver, chez Stockhausen, on ne sait plus du tout ce qui va arriver. trop de surprises tue la surprise dans le temps.
C'est en tout cas l'expérience qu'on en fait beaucoup des auditeurs de l'époque.
Oui.
Et le reproche majeur qui a pu être adressé à ce moment très très circonscrit de l'histoire de la musique, qui est la musique post-sérielle de la fin des années 50.
Là, on va prendre un autre objet. Alors, je dis bien objet, mais j'anticipe évidemment. Mais est-ce que objet musical, on en avait parlé dans, il y a quelques émissions avec Alexandre Arbeau. Là, c'est un objet qui vient d'une autre tradition que celle de la musique instrumentale. C'est tout d'un coup les musiques concrètes, musique électroacoustique. Et on va écouter un extrait de Bocalis de Denis Dufour, un extrait qui s'appelle Brie. Un extrait de Brie de Denis Dufour dans un cycle qui s'appelle Bocalis, dans lequel il utilise le matériau du verre. Alors Jean-Claude Avançon, là, quand on écoute cet extrait, on sent qu'il nous dit vraiment vers quoi il va aller. C'est-à-dire, dès le départ, il nous propose une matière qu'on va reconnaître ensuite après, c'est-à-dire ce Brie de verre.
Ouais, ce que je trouve intéressant dans cet extrait, c'est que là où les compositeurs post-sériels de la fin des années 50, représentés tout à l'heure par Stockhausen, ont mis à mal la notion de thème, la notion de motif, en explosant le discours, en abolissant les hiérarchies qui pouvaient exister entre l'ordre horizontal et l'ordre vertical, en ponctualisant complètement les propositions musicales. Donc là où le thème a disparu, le motif, la notion de motif a disparu, il revient dans la musique savante, par le biais de la musique électroacoustique. Et bien évidemment, sous des un jour complètement renouvelé, où on ne peut plus le résumer à une structure de hauteur et de durée.
Oui, comme on ne parle pas de thème, on ne parle pas de mélodie ici.
Absolument pas. Et le terme que va utiliser Pierre Schaeffer pour qualifier ce matériau de la musique concrète ou de la musique électroacoustique, en l'occurrence ici de la musique concrète, c'est le terme d'objet sonore. Mmh. Et j'aime beaucoup ce terme car il nous dit bien ce que c'est un objet sonore et ce qu'est un motif au sens des théoriciens de la Gestalt. C'est-à-dire, c'est une unité qui a un contour. Savez-vous que le mot forme a la même étymologie que le mot fromage?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que le moule du fromage détermine la frontière entre le fromage et le non-fromage.
Vous venez de me révéler quelque chose, parce qu'au XVIe siècle, on disait bien formage et non pas fromage. Merci.
En revanche, Clément, je vous alerte, évidemment, il n'y a aucun rapport entre ce fromage et le Brie que nous venons d'entendre.
Bien sûr. Merci, mais c'est vrai que là, dans ce Brie de Bocalis, Jean-Claire, nous voyons bien qu'il est délimité dans un temps, c'est-à-dire qu'on a un objet qui commence et qui a une fin, et oui, que tout de suite, il nous crée finalement le cadre dans lequel il va pouvoir développer toute son idée. Donc, est-ce qu'il joue un peu comme Mozart avec son thème? C'est-à-dire, il nous donne une idée et finalement, toute la pièce pourrait se résumer à ce son, cet objet qui est à l'origine de tout le reste.
En tous les cas, les différents objets sonores qu'il nous propose, successivement et simultanément, peuvent être mis en relation par notre oreille. On peut suivre le déroulement de la musique comme on le ferait d'un récit. Et on se rend bien compte que cet objet sonore qu'on ne peut plus qualifier par les hauteurs ou les durées qu'ils constituent, ces objets sonores vont être bien mieux décrits par la nature du flux musical, de l'énergie musicale qu'ils dessinent, de la tension vers la détente, de la détente vers la tension, la place des impacts, une durée auquel succédera ensuite différents impacts ou inversement. Un objet sonore va également être qualifié par son grain, par sa qualité de timbre, par sa qualité de couleur, de lumière.
Donc tout ça, finalement, quand on pose toutes ces questions-là, ça change complètement notre rapport à la composition même. C'est-à-dire, on ne parle plus de développer un thème, on parle plus de rentrer dans le son. En fait, on travaille sur une matière qui est complètement autre. Finalement, le temps de la pièce va être complètement autre aussi, notre perception par la même occasion.
C'est presque une écoute beaucoup plus imagée qui s'offre à nous, car on suit l'aventure d'un son. À partir du moment où on insiste sur la forme des objets, sur la manière dont ils s'écoulent dans le temps, on va les suivre comme, encore une fois, on le suivait d'un récit. À telle enseigne que un laboratoire de Marseille a développé tout un attirail théorique pour analyser les musiques électroacoustiques, qui s'appelle les unités sémiotiques temporelles, qui, en fait, propose une typologie des différents objets sonores et une typologie très poétique qui vient caractériser les images qui peuvent naître à l'écho de ces objets en les associant à des sens possibles.
Le tout début de Above, une pièce de Michel van der A, compositeur qui a beaucoup de langages différents dans sa musique, puisqu'il a écrit aussi bien pour la musique électrifiée, l'électronique, que pour une pièce instrumentale comme celle-ci. Et c'est vrai qu'ici, Jean-Claire Vanson, quand on l'écoute, dès le début, il nous propose un objet musical identifiable et qui va faire proliférer au fur et à mesure dans son ensemble. Est-ce que la répétition, finalement, nous permet à nous de concevoir un peu mieux le déroulement temporel d'une pièce ?
À l'évidence, ici, la répétition nous permet d'anticiper, elle propose un confort à l'oreille. Dans ce début, on a d'abord un premier objet, une longue tenue, que je mettrais très volontiers en rapport avec les longues tenues de bris de verre qu'on avait dans la pièce de Denis Dufour tout à l'heure. Puis, un deuxième matériau qui est proposé, un motif, très simple, un long crescendo sur une tenue, ponctué par deux doubles croches. À partir du moment où ce motif est répété, notre oreille, à chaque fois qu'elle entend ce crescendo, attend les deux brèves qui vont
papa,
conclure.
Papa,
exactement. Et elle perçoit ces unités comme autant d'objets et elle peut les comparer, apprécier les variations auxquelles cet objet est assujetti, l'inversion de la pente mélodique à la fin entre les deux brèves. Et Michel van der A nous accompagne dans l'écoute et dans la découverte de la forme musicale. Et en même temps, on sent bien que le motif ici revient donc dans la musique instrumentale chez un compositeur qui a une grande culture électroacoustique, comme vous le disiez, mais revisité à la lumière de l'expérience, justement, de l'objet sonore. Puisque ce motif, au fond, ne vaut que par l'énergie très caractéristique qui est la sienne et qui se finit sur ses accents.
On n'est pas obligé de créer une musique qui soit, pour nous, plus identifiable, finalement, dans un temps qui s'écoule, avec des notes. On peut aussi utiliser de la matière, à repartir de la musique concrète. C'est un peu le cas de Jérôme Combier, un compositeur qu'on a reçu ici déjà, et qui travaille énormément avec le souffle, avec plusieurs matières différentes, qu'il fait jouer aux instruments. Et finalement, il peut écrire quand même des motifs avec d'autres matières que la note.
Tout à fait. Et le début de la pièce que nous allons écouter, Voix d'ombre, très simple d'écriture. C'est un duo pour clarinette et violoncelle. Aucune difficulté à comprendre ce qu'il se passe. Vous allez entendre qu'effectivement, le matériau de base peut se ramener à un motif, au sens quasiment, sinon mozartien, du moins beethovenien du terme, mais que ce motif, encore une fois, prend acte des aventures électroacoustiques, de l'aventure du son qu'a permis cette exploration-là, puisque ce motif, il se caractérise peut-être aussi bien par sa pente mélodique que par sa qualité de timbre, telle qu'elle est proposée ici, donc à la clarinette et au violoncelle.
Jérôme Combier, voix d'ombre ici avec des objets musicaux identifiables, puis surtout un geste de ce compositeur qui est très fréquent dans sa musique, ses descentes, ses notes qui coulent les unes contre les autres, et puis ce travail sur le timbre, tout de suite il déforme, il transforme. Et vous parliez, Jean-Pierre Vanson, juste avant pour Michel Vander A, Jérôme Combier nous accompagne dans cette transformation. Il nous montre son processus de travail sur cet objet musical. C'est quelque chose finalement qu'aujourd'hui on reconnaît dans énormément de compositeurs. Est-ce qu'on a oublié que les années 50 nous ont proposé de complètement nous faire perdre pied dans le temps musical? Est-ce qu'aujourd'hui on est seul dans une période où nous réunissons finalement ce que Mozart faisait avec un Pierre Schaeffer ou encore un Pierre Boulez?
C'est-à-dire, je pense que les expériences conduites à la fin des années 50 ont vite montré à la fois leur richesse dans leur capacité de renouveler notre écoute. C'est un papier de verre qui est passé à notre oreille, et en même temps montrer leurs limites, à telle enseigne qu'on pourrait très rapidement décrire les années 60 et 70 comme une espèce de reconquête de la perception temporelle de la musique par les compositeurs. Et ils vont, pour ce faire, travailler dans deux directions, et c'est assez étonnant de voir que des compositeurs extrêmement divers au plan esthétique, finalement, vont travailler dans des directions qui s'avéreront, sinon identiques, du moins comparables. Comment reprendre acte de la dimension temporelle du phénomène musical? Eh bien, en proposant des objets musicaux plus longs que le point de Stockhausen, et en repensant la texture musicale. Les deux extraits qu'on vient d'entendre, Michel Vander A et Jérôme Combier, c'est du contrepoint linéaire à la Jean-Sébastien Bach. Hein.
Oui, finalement.
Des instruments qui s'imitent l'un l'autre sur un même motif. C'est une magnifique strette sur un motif, quel qu'il soit. Mais des compositeurs aussi variés que Xenakis ou Ligeti vont repenser la texture à la lumière de la masse, composant des micro-polyphonies. C'est-à-dire que même s'il se passe beaucoup de choses au niveau du détail, le but du jeu de ce détail, c'est de constituer une grande masse globale, et c'est ce phénomène-là qui va être proposé à notre oreille. Donc avec des objets longs et des masses beaucoup plus denses, le temps fait à nouveau son apparition dans le discours musical. Et à cet égard, Métastasis de Xenakis est probablement une œuvre pionnière.
Thank you.
réponse à Yannis Zegnakis et son Metastasis. Nous écoutions Brian Eno et Robert Fripp qui jouaient ici An Index of Metals, avec vraiment ce goût pour un temps étiré au maximum. Vous me disiez, Jean-Claire Manson, hors micro, que c'est un processus qui dure à peu près 26 minutes. Donc, au bout de quelques minutes, je pense que les compositeurs cherchent à ce que nous ne posions plus la question du temps. Nous sommes ici dans un processus qui doit juste s'offrir à nos oreilles, s'ouvrir et ouvrir nos oreilles pour ne plus sentir le temps qui passe. Est-ce que cette démarche globale de ces masses qui changent, qui se transforment, est dans cette idée de nier l'inexorabilité d'un temps qui passe ?
C'est là le paradoxe, c'est que plus on va fabriquer des objets longs, et donc là, avec le cas extrême de cet objet proposé par Eno et Fripp, qui dure 28 minutes, plus il est long et plus il se soustrait au temps qui passe, et plus il se donne comme une espèce de présent éternisé. Puisque précisément, un objet sonore, c'est un présent qui dure, et bien nous avons ici un présent qui dure 28 minutes. Donc on arrive à une autre forme d'expérience temporelle, proposée par ces stases, et qui est d'un ordre peut-être plus mystique, de la suspension du temps, de la contemplation.
Est-ce que c'est à peu près le même principe que l'on retrouve par exemple dans tous les processus répétitifs que ont pu engendrer des gens comme Steve Reich ou Terry Riley, qui insistaient tellement sur des toutes petites, des micro-objets, puisqu'on parlait des objets tout à l'heure, c'est-à-dire juste des impacts, mais répétés à l'envi, qui créent finalement une masse énorme sur un temps extrêmement long. Est-ce qu'on peut rapprocher les deux domaines alors que finalement c'est des compositeurs qui sont assez éloignés entre Xenakis et Steve Reich par exemple?
Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que au fond des esthétiques aussi diverses que celles de Reich, de Xenakis, de Ligeti ou des spectres ou de Brian Eno, présente aussi autant de dissemblances que de points communs. Pour moi, ce n'est pas un hasard si les spectros sont contemporains du rock progressif dont on vient d'entendre des succès d'années. Là où les minimalistes américains se différencient de tous ces exemples, c'est qu'ils vont strier ces tenues. Tels qu'on a pu les entendre.
Et surtout pour qu'on puisse hacher. Reconnaître ces striures, contrairement à ces micro-striures de Ligeti ou Xenakis. Là, on est vraiment dans une hachure de la musique pour qu'on les perçoive.
Ouais, il ne faut pas oublier qu'il y a une culture américaine du groove.
Oui, c'est ça.
Qui imprime fortement l'écriture de Steve Reich. Et avec l'exemple de Reich que vous évoquez, apparaît une notion importante dans l'expérience temporelle de la musique que nous pouvons avoir, c'est la notion de pulsation. C'est-à-dire le rapport précisément à un temps qui va se hacher. Avec un tic et un tac, comme celui de l'horloge ou celui du métronome. Une pulsation à laquelle se soustrait précisément la longue tenue de Brian Eno ou les masses mouvantes de Metastasis. Et plutôt qu'écouter ici une pièce, on pourrait écouter une pièce de Steve Reich, City Life ou Music for 18 Musicians, je vous proposais d'écouter un compositeur français qui a approprié à son écriture ce modèle des répétitifs américains, qui est le jeune compositeur Christophe Bertrand, disparu trop tôt, il y a quelques années, avec le début de Scales pour grand orchestre.
Une œuvre qui nous parle justement de comment est-ce qu'on peut synthétiser finalement tout ce que le XXe siècle nous a offert pour en faire une musique vraiment actuelle. Scales de Christophe Bertrand, ici joué magnifiquement par tous ces instruments qui déploient des guirlandes à l'infini, avec cette idée qu'on pourrait faire proliférer ceci dans un temps extrêmement long. Et puis surtout ce motif qu'on entend tout le temps, des fusées vers les aigus, qu'on entend dans énormément de pièces de notre culture musicale, qui pourrait nous créer une attente finalement. Il ne donne pas à entendre la suite de cette montée. Qu'est-ce qui se passe après ? Finalement, notre oreille, elle est là, dans le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe après ? On cherche à savoir ce qui se passe après.
Justement, Christophe Bertrand ici travaille beaucoup avec notre attente. Car au fond, à répéter un motif, rappelez-vous ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a que trois possibilités, répéter A, donner B ou s'arrêter. À force de répéter A, on attend de plus en plus l'arrivée de B ou alors la fin de la pièce. Et ce qu'il se passe ici, c'est que effectivement, de temps en temps, la répétition s'arrête. La forme est construite avec de grands élans qui arrivent sur des sommets et ensuite l'énergie se dissout. Et au fond, les grands élans de forme ici sont construits comme le son construit les objets sonores, c'est-à-dire fondamentalement autour d'un accent, éventuellement quelque chose qui vient avant l'accent, qu'on va appeler une levée ou une anacrouse, et après l'accent, une désinence avec une perte de l'énergie.
Alors, ce sont des termes très musicaux et musicologiques que vous donnez ici, Jean-Claire Manson, mais c'est vrai qu'en gros, c'est une sorte de courbe qui nous crée avec toujours ce moment où on va arriver à un état où on a besoin de redescendre. C'est-à-dire, on monte vers quelque part pour redescendre. Et finalement, quasiment toute la musique pourrait être résumée à ça, mis à part les exceptions des années 50-60 où on va annuler ces formats-là.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que l'aventure de cette émission nous a amené du point à la courbe. Et c'est précisément parce que notre oreille fonctionne d'abord avec des courbes que le point de la fin des années 50 a pu la troubler.
C'est sur cette phrase magnifique, Jean-Claire Manson, nous allons nous quitter malheureusement, après avoir vu et entrevu des toutes petites parcelles de ce temps musical diffracté, ce temps musical qui nous offre plein de possibilités d'écoute. J'invite les auditeurs à lire deux articles, un article et un livre donc, que vous avez écrit en 2006 et 2008. Le premier, donc, c'est Chronosophie musicale dans les années 50, un article que l'on trouve dans une somme sur Musique et temps, édité par la Cité de la Musique. Et le deuxième, un livre qui s'appelle Âme chinoise et cœur français, au sujet de la pièce de la compositrice Shu Yi, Le plein du vide, édité chez Lemoigne en 2006. Merci beaucoup Jean-Claire Manson.
Au revoir. Merci Clément.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Zoom sur Vortex Temporum de Gérard Griset.
Vortex Temporum, tourbillon de temps. L'une des dernières œuvres de Gérard Griset, composée entre 1994 et 1996, dans laquelle il va chercher à scruter notre perception de plusieurs temps. Trois temps différents, ordinaires, plus ou moins dilatés, plus ou moins contractés. Comme il les nomme, le temps des hommes, celui du langage et de la respiration. Le temps des baleines, le temps spectral des rythmes du sommeil, et celui des oiseaux ou des insectes, c'est-à-dire le temps contracté à l'extrême, où s'estompent les contours. Tourbillon de temps définit la naissance d'une formule d'arpège tournoyant et répété et sa métamorphose dans différents champs temporels. Au départ,
un objet musical court, comme une sinusoïde, une forme d'onde, un geste. Une gestalt, dirait Gérard Griset, qu'il a emprunté à Daphnis et Chloé de Maurice Ravel. Cette vague continue de flûte et de clarinette, soutenue par un piano tout en mélisme contracté. En accordant quatre notes du piano un quart de ton plus bas, Griset crée un instrument au timbre rêche et à la fois épais. Il tente de transférer la forme de cet objet musical sinueux dans la structure de l'œuvre elle-même. À grande échelle, Vortex Temporum est une énorme sinusoïde. Encore faut-il pouvoir l'apercevoir. Comme le dit le compositeur, pensez aux baleines, aux hommes et aux oiseaux. Si l'on écoute les chants des baleines, ils sont tellement étalés que ce qui paraît être un gigantesque gémissement étiré et sans fin n'est peut-être pour elles qu'une consonne. C'est-à-dire qu'il est impossible, avec notre constante de temps, de percevoir leur discours. Parallèlement, à l'audition d'un chant d'oiseau, on a l'impression qu'il est très aigu et agité, car il a une constante de temps beaucoup plus courte que la nôtre. Difficile pour nous de percevoir ces subtiles variations de timbre, alors que lui nous perçoit peut-être comme nous percevons les baleines. Sur la partition du deuxième mouvement de Vortex Temporum est indiqué « légèrement hésitant », comme une périodicité floue. Ici, Gérard Griset demande aux interprètes de suivre un temps mouvant, malléable. Alors que la musique est notée en valeur régulière, le pianiste doit accélérer et ralentir, en fonction de flèches ascendantes et descendantes disposées au-dessus de la portée. Pour créer un temps irrationnel, fait uniquement de variations agogiques, troublant cette insistante marche obsessionnel, avant de s'éteindre dans un souffle, une respiration.
Thank you.
troisième mouvement de Vortex Temporum est une forme de contraction de tous les temps observés à la loupe au cours de l'œuvre. On y retrouve bien entendu les vagues de Daphnis et Chloé. Mais on voit apparaître des points, des impacts fluctuants aux cordes frottées. Ou, à l'opposé, des matières enveloppantes, faites de râles, de grincements, de souffles, qui prendront progressivement toute la place de notre oreille. Et surtout, la combinaison de plusieurs couches temporelles complexes, nous perdant dans notre propre temps de perception. Comme si s'effaçait de notre mémoire, au fur et à mesure, ce tourbillon de temps, qui s'érode, en courts fragments et incises, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir impalpable. Je laisserai le dernier mot à Gérard Griset. Toute combinatoire entre ces temps est possible, mais le doute subsiste quant à la perception qu'on peut en avoir. Il y aura sans doute, une fois de plus, une légère inadéquation entre l'intention et la réalisation, entre le rêve et la réalité. Mais n'est-ce pas cette fragilité humaine et cette gaucherie devant un trop vaste projet qui laisse subsister un peu de ce qu'il est convenu d'appeler la beauté? De notre troisième épisode du Cri du Patchwork sur le temps. Merci à Perrine Minguy aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Stéphane Démon. Merci à Flora Sternadel, toujours à la recherche du moindre son. La semaine prochaine, dernière étape dans le temps, en compagnie du compositeur Christian Zanesi, héros des musiques concrètes et électroacoustiques au sein du GRM. Nous tenterons de percevoir un temps qui nous échappe, le temps de la composition. Et surtout, lorsque le compositeur manipule des sons enregistrés, coupe des bandes ou monte des fichiers sur son ordinateur. Comment la musique électroacoustique a modifié le temps de l'écriture musicale? Ce sera la question de la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, où vous pourrez également podcaster cette émission. Chers écoutants,
si je fais 1, Togalam, 1, voilà, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, voilà, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 22h30. L'heure pour moi de passer la main à Anne Montaron et son Ala Brévé. À vos oreilles.